Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent aujourd'hui lors d'un sommet informel en Roumanie, sommet qui devra essentiellement fixer les grandes orientations et permettre aussi de poser les premiers jalons de la course aux présidences, en particulier la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne.
La dite commission justement qui envisagerait de réduire drastiquement le Fonds européen d'assistance aux plus démunis.
Oui, c'est ce que dénonce ce matin l'association Resto du Cœur, laquelle demande à ce que le droit à l'alimentation soit reconnu dans le socle européen des droits sociaux.
Face aux accusations d'opportunisme, Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les européennes, a défendu ce matin les propositions écologiques au cœur de son programme.
Nathalie Loiseau qui fait valoir en la matière l'action d'Emmanuel Macron lui-même. En France, nous nous intéresserons également à cette journée de grève aujourd'hui pour dénoncer la réforme de la fonction publique. À l'étranger, nous nous rendrons au Venezuela où la répression du régime Maduro contre les auteurs de la tentative du soulèvement se poursuit. Enfin, ce jeudi 9 mai consacré journée de l'Europe, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le droit nous protège-t-il des logiques du pouvoir et en toutes circonstances pourrait-il nous protéger des abus du politique? Notre invité, l'avocat François Saint-Pierre, auteur de Le droit contre les démons de la politique.
Merci et à tout à l'heure. Parce qu'il avait été imaginé à l'origine comme un réengagement des 27 États membres en faveur de l'Europe après le départ du Royaume-Uni, lequel départ prévu le 29 mars dernier n'a toujours pas eu lieu. Le sommet informel des chefs d'État et de gouvernement européens organisé aujourd'hui en Roumanie ne devrait avoir qu'une portée limitée. Un rendez-vous essentiellement symbolique en réalité, censé marquer l'anniversaire de la déclaration prononcée par un certain Robert Schuman en faveur de la création de l'ACECA, ancêtre de l'UE, et où chacun devrait soigneusement éviter les sujets qui fâchent à 2 semaines seulement des élections européennes. Sans compter que dans cette union qui chaque jour un peu plus ressemble à un vieux mariage sans amour marqué par les divisions de plus en plus assumées, il ne sera sans doute pas aisé de faire émerger des thèmes consensuels à même d'attester d'une véritable unité autre que de façade. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Sibiu. En réalité, tout l'intérêt de ce rendez-vous pourrait davantage ressortir des discussions informelles qu'auront les dirigeants européens, à commencer, Angélique, par les grandes orientations générales pour les 5 prochaines années.
Oui, et parmi les priorités listées en amont de ce sommet, il y a la protection des citoyens et la défense de leurs libertés, la modernisation du modèle économique de l'Union, la promotion des intérêts de l'Europe dans le monde et la question climatique. Mais les dirigeants des 27 pays qui sont arrivés il y a une heure environ ici à Sibiu sous un soleil radieux viennent avec en quelque sorte leur propre liste de courses. Ainsi la France qui avec 7 autres pays, Danemark, Portugal, Espagne, Suède et ceux du Medelux, mais sans l'Allemagne, la France donc, qui va proposer de mettre la défense du climat en tête des actions concrète que doit engager l'Europe dans les 5 ans à venir. Une préoccupation climatique qui n'est pas partagée par tous, en particulier par certains pays de l'Est. On parlera aussi de défense des frontières, de l'état de droit, de cybersécurité ou encore de lutte contre la désinformation. De très vastes sujets, certes, mais qui seront à l'agenda des prochaines années. Il faut donc bien se mettre autour d'une table et en discuter.
Et puis, outre cet agenda stratégique donc des prochaines années, ce rendez-vous, Angélique, sera aussi l'occasion d'ouvrir le bal des prétendants aux grands postes, clés de l'exécutif de l'UE, qui seront à pourvoir cette année.
Oui, car il faut le rappeler, dans la foulée des élections européennes, on va changer de président du Parlement, bien sûr, mais aussi de président du Conseil, de président de la Banque Centrale Européenne, de haut représentant de la diplomatie européenne. Et puis, c'est sans doute le poste clé le plus disputé, on va choisir le futur président de la Commission européenne. Le Parlement doit ratifier la proposition du Conseil. C'est l'un des enjeux de l'élection du mois de mai. Les citoyens devraient d'ailleurs l'avoir en tête, car selon un système controversé, mais qui a été appliqué il y a 5 ans, c'est à la tête de liste de la famille politique européenne qui obtient le plus de sièges que revient ce poste. Les sondages donnent le PPE, la droite européenne en tête. C'est l'allemand Manfred Weber qui est donc dans les tuyaux, un parfait inconnu en dehors de l'Allemagne et qui n'a jamais occupé de poste stratégique important. Certains pays, France en tête, mais il y en a d'autres, n'en veulent donc pas et souhaitent que les dirigeants européens gardent la main sur cette nomination. C'est un sujet sensible qui devrait s'inviter à la table de ce Conseil.
Merci Angélique Boin en direct de Sibiu en Roumanie ainsi qu'à Christophe Papon pour les moyens techniques. Alors si les dirigeants de l'UE devraient essentiellement profiter de ce grand raout pour préparer donc le mercato des postes clés des institutions européennes, il est un sujet d'urgence pourtant dont ils pourraient se saisir et d'ailleurs c'est là le sens de l'appel lancé ce matin par les Restos du Cœur en faveur d'un plan européen de lutte contre la pauvreté. Armelle Balagog, bonjour.
Bonjour.
Les restos s'inquiètent plus exactement d'une possible baisse du Fonds européen d'assistance aux plus démunis, FEAD, qui touche actuellement 16 millions de personnes en Europe. Or, récemment, la Commission européenne a proposé d'intégrer ce fonds à un autre fonds social plus large, ce qui pourrait avoir pour effet de diviser par deux les sommes allouées aux plus démunis.
Il pourrait passer de 3,8 milliards d'euros en 7 ans à seulement 2 milliards pour la même durée entre 2021 et 2027. Et cela risque d'étouffer l'aide alimentaire. Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur, insiste et rappelle sa nécessité.
Ce fonds permet d'acheter des produits alimentaires qui sont distribués à ce moment-là aux personnes les plus démunies en France ou ailleurs en Europe. Donc c'est un outil essentiel dans la lutte contre la grande pauvreté.
En novembre, il a déjà reçu une réponse rassurante du commissaire européen Pierre Moscovici. Insuffisante, tranche-t-il, car selon lui, la pauvreté est la grande oubliée des programmes des candidats aux européennes.
Pour nous, c'est tout à fait insuffisant. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'ait pas d'affirmation claire sur ce qu'ils sont prêts à faire pour lutter contre la pauvreté. Donc, on voudrait sensibiliser les candidats aux européennes sur le fait que ceux qui seront élus auront un pouvoir important.
Et si l'aide alimentaire européenne venait à diminuer, le gouvernement français s'est engagé à la compenser. Mais là non plus, ce n'est pas satisfaisant pour Patrice Blanc.
L'État français prend des engagements annuels. C'est le principe de l'annualité budgétaire. Donc la promesse faite pour une année sera-t-elle tenue l'année suivante, 2 ans, 3 ans après, on ne le sait pas. Alors que le cadre budgétaire européen, c'est un cadre qui est fixé pour 7 ans. Donc la sécurité n'est pas la même.
Le président des Restos du Cœur demande donc l'inscription du droit à l'alimentation dans le socle européen des droits sociaux.
Merci Armelle Balagog. Relancer l'Union européenne, c'est là toute l'ambition affichée par Emmanuel Macron, lequel a fini par publier hier le programme de la liste de la majorité pour les élections européennes. Un projet articulé pour l'essentiel autour de deux tendances, le climat d'un côté et les frontières de l'autre, ou dit autrement, les deux grands thèmes portés l'un par les listes de gauche et l'autre par la droite et l'extrême droite. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
On comprend bien où se situe le calcul politique d'un tel programme, destiné donc à faire barrage à tous les fronts possibles. Et puis, ce document de 32 pages se conclut par une tribune signée non pas Nathalie Loiseau, mais Emmanuel Macron lui-même. Alors, au-delà des propositions, ce programme, Stéphane, ne témoigne-t-il pas au fond ici et surtout d'une certaine fébrilité?
Oui, on sent comme une inquiétude monter dans les rangs de la majorité. La campagne portée par la tête de liste Nathalie Loiseau ne prend pas, il n'y a pas de dynamique en faveur d'En Marche. Et du coup, on sent qu'Emmanuel Macron brûle de s'impliquer dans cette campagne. Il a rédigé cette tribune qui apparaît en bas du programme publié hier après-midi. Mardi soir, il s'était invité à un dîner organisé par la candidate avec plusieurs de ses colistiers. Et puis un débat se déroule depuis quelques jours au sein de La République En Marche entre ceux qui estiment que le chef de l'État doit rester en retrait et ceux qui pensent au contraire qu'il doit s'impliquer pleinement dans la campagne. On peut aussi constater que plusieurs offensives sont lancées tous azimuts pour essayer d'attirer les électeurs. Au départ, Emmanuel Macron avait misé sur un duel avec le Rassemblement National et le schéma de campagne, c'était les pro-européens contre les anti-européens, les progressistes contre les populistes, autrement dit les bons contre les méchants, c'était simple, basique. C'est ce qui se profilait depuis des semaines, voire depuis des mois. Mais à mesure qu'on approchait du scrutin, le président s'est aperçu que ce ne serait peut-être pas suffisant. Et du coup, il ouvre de nouveaux fronts, il installe de nouveaux duels avec d'autres formations politiques pour essayer d'attirer les électeurs. La bataille au niveau programmatique, avec le projet publié hier, est engagée avec les Verts. Et c'est à qui sera le plus écologiste, avec notamment cette proposition faite par En Marche d'investir 1000 milliards d'euros dans la transition énergétique. Une autre bataille, un autre duel est engagé depuis quelques jours avec les Républicains. Et là, ce sont les ministres de droite qui mènent l'offensive. On a vu Édouard Philippe vanter en début de semaine les mesures en faveur du pouvoir d'achat mises en œuvre depuis quelques mois. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, a tenté, lui, d'expliquer sur Twitter que voter pour François-Xavier Bellamy, le candidat LR, c'était comme voter pour Laurent Wauquiez, qui fait figure de repoussoir pour une partie de la droite. Bref, on sent qu'effectivement, une certaine fébrilité semble s'être emparée du pouvoir exécutif et d'Emmanuel Macron, qui considère que la suite de son quinquennat dépend en grande partie du fait que la majorité finira en tête de cette élection ou bien en seconde position derrière le Rassemblement National.
Merci Stéphane Robert. Et toujours pour continuer d'évoquer cette journée de l'Europe, invité de la rédaction aujourd'hui, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors et ancien journaliste au journal La Croix. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Première question, monsieur Maillard, depuis que les élections européennes existent, le taux de participation à ce scrutin n'a jamais cessé de baisser. Pour le 26 mai, on parle aujourd'hui en France d'à peine un électeur sur quatre qui s'apprêterait à se déplacer dans les bureaux de vote. Est-ce là un syndrome uniquement français ?
En France, c'est très fort. C'est encore plus fort dans les pays d'Europe centrale. Je pense à la Slovaquie, à la Pologne, où les taux sont encore plus bas. Bien sûr, si on regarde du côté de la Belgique ou du Luxembourg, où le vote est obligatoire, ça fausse la donne. Mais on est plus largement au-delà de l'Europe sur une tendance, en fait, propre aux démocraties occidentales. Si vous regardez aussi depuis l'après-guerre, comment la participation a diminué aussi aux États-Unis pour le vote au Congrès, on est aussi sur des tendances très baissières, globalement, sur pas seulement les européennes, malheureusement.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Ce sont les 40 ans des élections européennes cette année. Les premières ont eu lieu en 1979. Candidat à l'époque, Simone Veil et Jacques Delors. Que représentait l'Europe à l'époque pour les citoyens ?
À l'époque, on était encore peut-être sur un narratif de l'Europe pour la paix, l'Europe sans frontières, quelque chose qui était très porteur. Il n'y avait pas trop la question de sortir ou non de l'Europe. En revanche, il y avait déjà, d'ailleurs, dans cette élection, l'idée de faire une Europe sociale. François Mitterrand était aussi très engagé dans cette campagne. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas toujours autour de la paix que tourne le sujet.
Alors, comment a évolué, justement, la raison d'être du projet européen aujourd'hui ? On voit que ce n'est pas facile, d'ailleurs, de sortir de l'Union européenne et de cette logique de mutualisation. Qu'est-ce qui a changé ?
Alors effectivement, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être le pays où l'on parle le plus des élections européennes, c'est en Grande-Bretagne. C'est ce qui est peut-être assez surréaliste, mais là, peut-être la participation sera finalement plus élevée qu'ailleurs. Ce sera très intéressant à observer. Sur la raison d'être aujourd'hui pour faire l'Europe, peut-être on a moins d'emphase qu'avant. Il y a moins les grands mots comme la paix. En revanche, on sent bien que les menaces qui nous entourent, que ce soit du côté de chez M. Trump, du côté de chez M. Poutine ou M. Xi Jinping, le fait que par exemple quand Emmanuel Macron a reçu le chef de l'État chinois à l'Élysée avec Angela Merkel et avec Jean-Claude Juncker, c'était vraiment pour montrer que voilà, l'Europe aujourd'hui, elle sert à répondre à cette ambition chinoise qu'on peut voir sentir sur notre continent, mais aussi je trouve que fait le Kremlin vis-à-vis de nos propres démocratie. Je pense aussi, bien sûr, à la menace climatique. On parlait du vert, des menaces terroristes. Donc, on est beaucoup plus sur une Europe qui essaye de répondre à la géopolitique, une saturation des menaces extérieures qui sont beaucoup plus aujourd'hui au cœur de la raison d'être de faire l'Europe vis-à-vis du reste du monde.
Alors, ce qui rebute les citoyens, c'est aussi la complexité de l'architecture institutionnelle. Le 26 mai, nous allons voter pour le Parlement qui se situe en France, à Strasbourg. Et c'est tout le paradoxe. Pourquoi l'activité parlementaire européenne, elle suscite si peu d'intérêt dans notre pays.
Ça, c'est depuis 40 ans qu'on a cette élection, elle n'arrive pas vraiment à décoller et les pouvoirs du Parlement européen qui ont été en grandissant aujourd'hui sur plus de 85 sujets, il peut légiférer et si on regarde la dernière législature, il a quand même voté plus de 700 lois et pas rien. Donc effectivement, ça, il y a un paradoxe entre la réalité de ces pouvoirs et le fait que aussi bien au sein des partis dans les médias, globalement, on prend pas toujours très au sérieux ce Parlement qui est vu un peu comme en football, il y avait la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est comme une démocratie de Ligue 2. Et finalement, lorsqu'il y a un vote solennel pour investir la Commission européenne, lorsqu'il y a des auditions des commissaires, parce que le Parlement européen a son rôle à mot à dire pour qui siégera dans cette commission, finalement on en parle moins que du prénom du nouveau bébé royal né en Angleterre. Donc effectivement, là il y a une responsabilité à la fois des médias, mais aussi des partis qui ne jouent pas le jeu, parce que peut-être en France aussi, on est très heureux que le Parlement soit à Strasbourg. Enfin, c'est là qu'il a ses saisons plénières une fois par mois. Si on le reste du temps, l'activité parlementaire se situe en réalité beaucoup à Bruxelles. Et en France, on tient surtout, en fait, on a toujours mis diplomatiquement le paquet, je dirais, sur le Conseil européen, sur donc ces réunions. On en parlait aujourd'hui à Sibiu, comme en Roumanie, des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent. Là, la France. Et siège, bien sûr, et a toujours, d'ailleurs c'est né presque en même temps que ces élections européennes de 1979, en 1974, on a institué régulièrement des sommets européens, et c'est vrai qu'on a vu au fil des crises récentes, que ce soit la crise de l'euro, la crise des migrants, les coups de projecteur médiatiques et politiques, tout ça s'est joué au Conseil européen, souvent malheureusement au détriment du Parlement européen.
Ce que vous dites finalement, c'est que les chefs d'État n'ont pas forcément intérêt à valoriser le rôle du Parlement.
Ça dépend des pays, parce que en Allemagne ou ailleurs, on a une culture parlementaire très forte et on trouve, je dirais, naturel que le Parlement européen joue un rôle puissant. Mais en France, effectivement, on n'a jamais pris complètement la mesure du rôle de ce Parlement européen. Et d'ailleurs, la preuve, on en voit souvent soit de jeunes novices se faire les dents, soit des anciens qu'on veut recaser là où on peut. Et il y a un turnover beaucoup trop fort de ces députés européens, parce que c'est un lieu assez technique, effectivement. C'est un lieu de compromis. On ne peut pas forcément faire des grands coups d'éclat. Et il faut prendre le temps de s'installer, de faire peut-être au moins quelques mandats pour vraiment être influent. Donc la France, effectivement, a perdu de son influence au Parlement européen.
Merci Sébastien Maillard, directeur, je le rappelle, de l'Institut Jacques Delors. Merci également à Anne Fauquemberg. Et puis je précise le titre de votre dernier ouvrage, Fruit d'entretien, donc avec Enrico Letta, l'ancien chef du gouvernement italien, mais également actuel président de l'Institut Jacques Delors. Livre intitulé « Faire l'Europe dans un monde de brut » et publié aux éditions Pluriel. Merci.
Merci à vous.
Alors si nous sommes désormais en campagne pour les européennes, c'est vrai que l'essentiel du débat tourne encore assez largement autour de problématiques davantage intérieures, en particulier celles portées par le mouvement des Gilets jaunes. Or aujourd'hui, ceux-là même qui depuis 6 mois avaient été mis sur la touche par les défilés hebdomadaires du week-end, les syndicats ont décidé de se faire entendre à nouveau, et mieux encore, de faire front commun dans la rue à l'occasion d'une mobilisation unitaire aujourd'hui. Manon Clavry, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est en réalité la 4e journée nationale d'action dans la fonction publique depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais c'est la première fois que le gouvernement se retrouve confronté à toutes les organisations syndicales qui rejettent en bloc un projet de loi, en l'occurrence la réforme de la fonction publique.
Pour les syndicats, ce rassemblement unitaire n'était pas gagné d'avance, alors ils espèrent qu'il leur donnera du poids, comme l'explique Bernadette Groison, la secrétaire générale de la Fédération syndicale unitaire.
C'est quand même assez inédit et je crois que le gouvernement devrait bien regarder à ce qui se passe quand on réunit contre un projet de loi toutes les organisations syndicales. Il y a déjà des secteurs qui sont en mobilisation, l'éducation particulièrement, et évidemment que cette journée de grève dans la fonction publique, elle a aussi cette vocation de rassembler tous ces secteurs et pour demander au gouvernement qu'il renonce à ses choix pour la fonction publique.
Emmanuel Macron est revenu le mois dernier sur son projet de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. L'annonce leur a donné de l'espoir, mais un espoir relatif, puisque pendant l'année de concertation qu'ils ont eue avec le gouvernement, les syndicats n'ont pas eu le sentiment d'être écoutés. Ce n'est pas faute d'avoir proposé des mesures, mais le compromis semblait difficile, vu la position du secrétaire général de la CGT Service Public, Baptiste Talbot.
On a besoin de développer l'emploi public. Je pense par exemple au secteur des EHPAD. Dans le secteur de la petite enfance, on évalue les places manquantes à plusieurs dizaines de milliers. Donc là aussi, il y a besoin d'emploi public. Il y a besoin de réduire la précarité dans la fonction publique. On ne le sait pas forcément, mais il y a aujourd'hui plus d'1 million d'agents non titulaires dans la fonction publique. Il y a besoin aussi de démocratiser la fonction publique. Donc nous, on est prêts à discuter, mais pour ça, ça veut dire encore une fois qu'il faut qu'on ait en face de nous un interlocuteur sincère et prêt à nous écouter. C'est absolument pas la posture dans laquelle était le gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle majorité.
Il craint qu'au lieu de cela, la réforme précarise la fonction publique. Le projet de loi doit être examiné par les députés la semaine prochaine. D'ici là, les syndicats appellent à une mobilisation dans la durée et espèrent que le gouvernement ouvrira avec eux un vrai dialogue.
Merci Manon Clavry. Alors cet après-midi, enseignants, cheminots, soignants, mais aussi douaniers, agents des finances publiques, sans oublier les retraités, tous défileront dans près de 150 manifestations prévues dans toute la France. Dans l'éducation nationale en particulier, un peu plus de 17% des enseignants du premier degré sont en grève et un peu moins de 12% dans le secondaire, selon les chiffres du ministère. De son côté, Jean-Michel Blanquer a confirmé la promesse d'Emmanuel Macron de ne plus fermer d'écoles primaires contre l'avis des maires, sauf que certains estiment que le vrai enjeu ne concerne pas la fermeture des écoles, assez rare, mais bien celle des classes. Et c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle Francette Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPP, le principal syndicat du primaire, dit aujourd'hui ne pas être rassurée.
Il n'a pas dit qu'il ne fermerait plus de classes, il a dit qu'il ne fermerait plus d'écoles sans l'avis des maires, ce qui était déjà préconisé puisqu'il fallait quand même une délibération du conseil municipal avant toute fermeture. Donc ça ne nous rassure pas parce que en effet, nous, ce qui se passe dans le milieu rural, c'est plutôt des fermetures de classes. Donc il faut regarder de près ces fermetures et il faut éviter les abus de fermeture de classes comme il y a pu y avoir ces dernières années pour permettre par exemple les dédoublements. Donc nous sommes favorables à une baisse des effectifs parce qu'effectivement les pays qui réussissent bien en matière matière d'éducation sont des pays qui ont misé sur deux choses principalement, sur la baisse des effectifs et sur la formation des enseignants, et y compris aussi sur l'augmentation des salaires. Donc tout ça, évidemment, doit être construit dans un même élan. Par contre, ça se budgète, et pour l'instant, nous n'avons pas la déclinaison budgétaire. On nous parle de 6000 postes supplémentaires, c'est ce qu'il va falloir pour dédoubler les classes de grande section en éducation prioritaire. Donc on n'est pas du tout sur la baisse des effectifs dans les autres classes de la grande section au CE1. Ça doit demander aussi un accompagnement de l'État, parce que pour les collectivités, ça va vouloir dire sans doute d'autres salles, et quelquefois même une autre école. Donc il faut, tout ça doit être accompagné, doit être décliné. Pour l'instant, on a l'annonce, on n'a pas la déclinaison, on ne sait pas quelle sera la réalité, donc nous ne sommes pas totalement rassurés.
Françoise Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPPL, répondait à Hakim Kasmi. Au Brésil, Michel Temer, qui en août 2016 avait succédé à la présidente Dilma Rousseff, brutalement destitué en raison de ses démêlés avec la justice, s'apprête à devenir le deuxième chef de l'État, être placé derrière les barreaux après Lula, en prison depuis un an déjà pour corruption et blanchiment d'argent. Hier, une cour d'appel de Rio a en effet ordonné la réincarcération de l'ancien président dans le cadre de la fameuse opération Lavage Express. À 78 ans, Michel Temer est notamment soupçonné par la justice d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné jusqu'à 417 millions d'euros. Au Venezuela, le régime du président élu Nicolas Maduro poursuit sa répression contre les auteurs de la tentative de soulèvement du 30 avril dernier. Après l'arrestation du vice-président de l'Assemblée nationale et bras droit de l'opposant Juan Guaido, trois nouveaux députés ont été inculpés hier de haute trahison, conspiration et rébellion civile, ce qui porte à 10 désormais le nombre d'élus poursuivis pour leur soutien à la tentative d'insurrection menée par le chef de l'État autoproclamé. Les précisions d'Olivier Poujade.
Comme à chaque fois, deux versions s'opposent sur la nature de l'intervention des agents du service des renseignements bolivariens. Dans un tweet, le bras droit de Juan Guaido, Edgar Zambrano, estime que les autorités ne lui ont pas laissé la possibilité de sortir de sa voiture et ont directement transféré son véhicule à l'aide d'un treuil vers l'Hélicoïde, lieu de détention des opposants politiques à Caracas. Zambrano aurait donc été purement et simplement kidnappé. L'autre version, la version officielle, est diffusée le soir même, en direct à la télévision, dans un show animé chaque semaine par Diosdado Cabello, chef du renseignement du gouvernement Maduro. Edgar Zambrano a été arrêté. C'est l'un des chefs du coup d'État. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour comprendre comment fonctionne la droite ici. Il a commencé à passer des coups de fil, dire qu'il était encerclé et que les renseignements allaient le séquestrer. Il n'a pas voulu sortir de sa voiture. Et donc, ils ont envoyé une grue. Une mise en scène spectaculaire pour une arrestation qui répond à la libération la semaine dernière par Juan Guaido de l'opposant Leopoldo López, aujourd'hui réfugié à l'ambassade d'Espagne, à la tentative toujours de Guaido de briser l'unité de l'armée, selon le gouvernement. L'arrestation d'hier est un nouveau coup dur pour Guaido, de plus en plus isolé et sous la pression constante des forces de sécurité, toujours entre les mains de Nicolas Maduro.
Ce sont des chiffres hors normes comparés aux dernières années. Plus de 100 000 migrants ont été interpellés après avoir traversé illégalement la frontière américaine depuis le Mexique le mois dernier. C'est le deuxième mois consécutif que ce seuil symbolique des 100 000 se retrouve ainsi dépassé. En revanche, et pour la première fois dans l'histoire de la police aux frontières, près de la moitié des adultes arrêtés étaient avec des enfants. Les États-Unis et la Chine se retrouvent aujourd'hui à Washington pour des négociations commerciales sous haute tension, les deux puissances se menaçant mutuellement de nouvelles mesures protectrices. Il y a quelques jours encore, pourtant, cette session de tractation était présentée comme la dernière avant un sommet entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, destiné à sceller un accord historique. Sauf que depuis, le vent a tourné, l'optimisme a laissé place à l'incertitude. Optant pour la stratégie de la pression maximale, l'administration Trump accuse désormais Pékin d'être revenu sur ses principaux engagements et menace de porter dès demain ses droits de douane de 10 à 25%. De son côté, Pékin non seulement dément ces accusations, mais surtout n'a pas l'intention de faire le dos rond. En clair, le cas échéant, la Chine n'aura d'autre choix que de prendre des contre-mesures. En attendant, les économistes du monde entier ne cessent de répéter qu'une guerre commerciale durable entre la Chine et les États-Unis provoquerait une onde de choc bien au-delà de leurs frontières. Toujours s'agissant des États-Unis, loin d'être une affaire classée, comme le proclamait encore il y a quelques semaines Donald Trump, l'enquête russe a de nouveau secoué Washington hier avec l'annonce surprise de la convocation au Congrès de son fils aîné. C'est la première fois que le Congrès use ainsi de ses pouvoirs d'enquête pour convoquer un membre de la famille Trump, dont certains ont témoigné de leur plein gré dans le cadre de cette investigation tentaculaire. Et puis surtout, fait marquant, c'est bien la Chambre haute aujourd'hui contrôlée par les Républicains qui a donné son feu vert à cette décision. Enfin, le pape François a profondément remanié ce matin la réponse de l'Église catholique aux abus sexuels commis en son sein, en rendant notamment les évêques responsables de ces actes ou de leur dissimulation. Dans un décret, le chef de l'Église catholique va obliger légalement chaque diocèse à signaler ses abus. On termine avec un mot rapide de météo. Cet après-midi, des averses perdureront sur la façade est du pays, sur le massif central. Sur le reste du territoire, le temps sera plus calme. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 14 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.